Merci d'être là et bienvenue à cette quatrième étude, si j'ai bien compté, de notre thème de l'année étant le travail. La première a réfléchi à la place du travail dans la vie du chrétien, la deuxième en octobre à l'identité chrétienne sur le lieu du travail, la troisième le mois dernier a évoqué les relations au travail. Et nous en sommes à la quatrième, les difficultés au travail. Et puisque c'est difficile, on va prier. Non, parce que c'est bon de remettre tout temps de réflexion au Seigneur, je vais prier maintenant. Seigneur, merci parce que nous pouvons venir à toi pour te demander de nous guider maintenant dans ce temps de réflexion, de lecture, d'échange. Merci pour ton soutien pendant toute cette journée émouvante. Merci parce que ce soit lors d'obsèques, que ce soit lors d'une étude biblique, que ce soit au travail justement, tu es celui vers qui nous pouvons nous tourner. Et nous voulons continuer à apprendre, à regarder à toi et à trouver en toi les ressources, le renouvellement, le discernement dont nous avons besoin. Amen.
Amen.
Voilà, des difficultés au travail. Et je vous propose, en introduction, de réfléchir ensemble à trois aspects de notre thème du soir. Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi, en particulier au travail? Et pourquoi nous posons-nous la question en tant que chrétiens? Alors, il y a des choses que vous avez déjà vues le mois dernier. Mais voilà, j'ai deux, trois notes ici, mais dès le début, je vous donne la parole. Pourquoi, si j'en dis trop, je vais donner les réponses. Pourquoi on est dans un monde où on a des difficultés? Ça vient d'où, les difficultés? Voilà, premier du brainstorming. Vas-y, vas-y.
Du péché.
Alors, oui, là tu frappes fort, mais tu as tout à fait raison. En finale... la cause englobante de tout ce qu'on va peut-être évoquer en quelques minutes, c'est le péché. Dans un monde sans péché, il n'y aurait pas d'épreuve, de malheur, de tristesse. Je souris, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait dire de l'effort, mais on va faire la distinction entre l'effort, la persévérance, qui pourrait probablement avoir du sens, qui pourront en avoir sur la nouvelle terre, mais les difficultés au sens de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui perturbe, quelque chose qui dérange, ça n'existerait pas dans un monde sans péché. Donc Valérie a conclu, on va s'en aller. Non. La grande cause des difficultés, c'est le péché. Mais qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre quand même comme sous-point de cette grande cause? Qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés? Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur une ou deux choses qui vont nous aider à aborder les questions précises tout à l'heure de surménage, de chômage, de sous-emploi, etc.
Voilà. Les soucis de relations.
Alors, oui, on avance. Les relations dont vous avez parlé le mois dernier avec Mathieu sont cause de difficultés. Mais en fait, c'est pas les relations elles-mêmes. Parce que là, pour le coup, on est sûr qu'on aura des relations sur la nouvelle terre. On est sûr que mystérieusement, mais on est sûr que le Dieu trinitaire a des relations merveilleuses, parfaites, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une unité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc les relations sont un endroit de difficulté, mais ce n'est pas les relations en tant que telles qui sont la cause. Donc on va revenir au péché, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui.
Je pense que notre manière de voir les choses,
oui, les différences,
faire certaines choses, mm-hmm. On se trouve en désaccord.
Oui. Les différences font qu'on peut avoir des points de vue qui ne se marient pas. Et on a des désaccords. Et au pire, on arrive dans des conflits. Ouais. Deux choses qui me sont venues en réfléchissant. C'est nous et les autres. Pourquoi j'ai des difficultés? Parce que j'ai mes limites. Parce que je suis faible. Parce que je ne gère pas bien certaines choses. Et puis les autres, parce qu'on est dans un monde dur. Alors, à cause du péché, je regarde Valérie, pour prendre une expression qui m'est venue de temps en temps, ces temps-ci, on est dans un monde de brutes, quand même. Quand même. Et le travail, on va y venir, deuxième petit point de brainstorming en introduction, pourquoi parler de façon un peu spécifique des difficultés au travail? Donc on a des difficultés à cause du péché, on a des difficultés parce qu'on a nos limites, on a des difficultés parce que le monde est dur et parce que la méchanceté peut vraiment nous compliquer la vie. Voilà. Deuxième aspect du brainstorming d'introduction, pourquoi on a des difficultés, entre autres et quelquefois en particulier, au travail? Qu'est-ce qu'il y a d'un peu spécifique avec le travail? Qu'est-ce
parce
que vous diriez? Pardon? Parce que c'est un des lieux où il y a des hiérarchies.
Voilà.
Une hiérarchie. Il y a ceux qui commandent et il y a ceux qui sont censés obéir. Il n'y a pas qu'au travail. Mais c'est un lieu où il y a des hiérarchies, des rôles différents, et ça peut créer des difficultés. Oui. Pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés au travail? Mais parce qu'on y passe beaucoup de temps, quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ont la tristesse, on en parlera un petit peu. Je suis dans mes petits souliers parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de l'intérieur. Mais vous allez m'aider à compléter par des témoignages. Mais il y a des gens qui sont extrêmement troublés, extrêmement éprouvés parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais dans tous les cas où on a du travail, on y passe beaucoup de temps. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les siècles passés, un paysan, et les agriculteurs et les autres, ils avaient plutôt des journées de travail de 15 que de 8, hein. Heure. Donc le travail est une partie énorme de notre vie. Donc, il se passe beaucoup de choses, entre autres des difficultés. Quoi d'autre qu'on pourrait dire de plus spécifique au travail qui fait que la nature même du travail, qui fait que c'est un lieu où les choses peuvent être douloureuses, plus compliquées, où les relations dont Anna parlait vont être quelquefois encore un peu plus acerbées, abîmées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du monde du travail comme endroit qui favorise, hélas, les difficultés, les tensions? Vous qui travaillez, moi je suis un ministre du culte.
Je ne travaille rien.
Oui, merci, merci. Je me taquinais. Merci beaucoup. Et il y a aussi des relations et un tas de choses. Mais voilà, plutôt dans l'entreprise, tous les agriculteurs d'un village, qu'est-ce qui peut être un peu plus spécifique dans le monde du travail qui fait que les difficultés peuvent nous tomber dessus? Qu'est-ce que vous diriez?
Peut-être leur concurrence entre les gens, je ne sais pas, je n'ai pas de collègues.
Je pense que c'est un mot. T'as lu mes notes? Non, mais je pense que c'est un mot qui est assez spécifique au travail. Il y a de la concurrence ailleurs, il y a de la jalousie ailleurs, mais dans le travail, il y a la compétitivité, ça se retrouve à l'école, mais c'est un lieu de travail aussi. C'est quelque chose qui peut vraiment compliquer la vie et vraiment perturber la marche de chacun. La compétitivité, les comparaisons. Oui. Quoi d'autre?
Il y a aussi les incompréhensions.
Les incompréhensions. Alors, ça, il y en a partout, mais il y en a au travail, justement. Et ça, vous en avez parlé, je regarde Mathieu, j'ai lu les notes du mois passé. Vous en avez bien parlé la semaine passée, le mois passé, et tu as terminé avec une phrase humoristique solennelle. Entre ce que je dis, ce que tu as cru que j'ai dit, ce que tu as pensé que j'avais voulu dire, ben, il y a un monde. Hein. Oui, une autre remarque.
On vous demande des résultats.
Voilà. Alors, oui, très très juste. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui a dû exister du temps des Grecs et des autres, mais qui est très fort aujourd'hui, la pression, c'est le mot que je cherchais, merci. La pression des résultats, de la productivité, du rendement. Je pense qu'on est dans une période où c'est un peu plus fort que la moyenne. C'est très fort. Et ça amène beaucoup de stress, de difficultés. Ok, très bien. Troisième remarque pour bien s'approprier le thème de ce soir. Des difficultés, oui, on est dans un monde où il y en a. Au travail, oui, il y a des difficultés très particulières qui s'ajoutent au travail. Pourquoi réfléchir en tant que chrétien? Toujours dans l'introduction, parce qu'on se pose les questions pendant toute l'année concernant la, la vie du croyant, du chrétien au travail. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en introduction, après tout ce qu'on vient de dire déjà, d'un peu spécifique, qui se rajoute peut-être, ou qui colore, ou je rallonge la question pour que vous ayez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut dire du chrétien qui a des difficultés au travail? Valérie.
Moi, je pense qu'il faut être un témoignage, mais ça n'a rien à voir.
Oh, je dirais pas que ça n'a rien à voir. Je dirais que, un... Si, si, ça... ça ouais, ouais. En t'écoutant, je prends
c'est
le temps
de... C'est parce que je suis là pour une fois que tu dis faut que je l'encourage qu'elle revienne.
Non, j'en sais rien. Moi, je suis rarement là, le jeudi soir maintenant, et ça me manque beaucoup, et je suis très heureux d'être avec vous. Et donc, je ne sais même pas si tu étais là les mois passés. Le fait que le chrétien veut... Ouais, je pense qu'il y a des liens. Le chrétien veut être, pour citer un texte biblique bien connu, « C'est les lumières ». Il veut honorer son maître, et du coup, ça lui met aussi une pression. Pour reprendre le même mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Quoi d'autre qu'on pourrait dire qui peut motiver notre réflexion de toute l'année quand on réfléchit aux croyants au travail? On peut réfléchir pour tous les autres, pour tous nos collègues. Mais qu'est-ce qui est un peu spécifique avec le croyant qui peut avoir des difficultés au travail? Qu'est-ce que vous diriez qui nous touche, nous, de façon peut-être un peu plus différente, un peu plus forte que les autres? Oui.
Enfin, la foi et la prière, oui. Parce que quand il y a des difficultés au travail, que je sois dedans ou pas dedans, je peux prier pour et ça change tout, parce que c'est le Dieu de l'impossible.
Ils ont tous les minutes. Oui, ça change tout. Oh, non, j'ai pas dit tout, j'ai dit ça change énormément. T'es plus forte que moi. Ça change tout pour la gestion des difficultés. Donc t'es déjà dans la gestion, c'est très bien. Ça fait partie du brainstorming. C'est important de réfléchir à tout cela parce qu'on a des outils. On a des appuis, on a un refuge, qui est une personne, qui va nous permettre de réfléchir aux difficultés au travail de façon très différente. Oui, tout à fait juste, Emmanuel. On a des appuis que les autres n'ont pas. Et on vit tout cela sous le regard infiniment bon du bon berger, même si on prend des coups. Oui, quoi d'autre qui serait un peu spécifique aux croyants dans le monde du travail où ils croisent des difficultés? Qu'est-ce qu'on pourrait dire du croyant au travail par rapport aux autres?
Il l'endure peut-être autrement, il le vit.
Autrement, oui. Et je pense, mais corrigez-moi, hein, surveillez-moi, que quelquefois, en tant que croyant, ça peut amplifier certaines difficultés parce que la foi peut agacer. Ça dépend des mondes, ça dépend des contextes, ça dépend des cultures. Mais il y a des cas où, parce qu'on est croyant, ça va rajouter un peu quelque chose. Et je pense qu'il y a même des cas où, non seulement ça amplifie, mais ça crée quelque chose. Il y a des difficultés qu'on va connaître en tant que croyant, qu'on n'aurait pas connues si on n'était pas croyant. Donc il y a des difficultés amplifiées ou en plus, et puis heureusement, Emmanuel a commencé par ça, il y a des appuis, il y a des ressources, et je crois que c'est vrai, c'est très bien que tu aies commencé par ça. C'est beaucoup ce qu'on a en tête. On veut, en tant que croyant, s'encourager à surmonter, à vivre, à vaincre, à persévérer le mieux possible, parce qu'on a des ressources.
Et en positif, je dirais aussi notre identité. Notre identité, c'est un Dieu, alors que ceux qui ont plus leur identité dans le travail, quand ça ne marche pas dans le travail, il n'y a plus rien qui va dans la vie.
C'est très fort. J'ai le droit de compléter mes notes. Alors oui, garde-le, dis-le tout de suite, tu l'as fait, et gardons-le sous le coude quand on abordera les questions de relations que vous avez déjà abordées le mois dernier, mais sous l'angle des difficultés, des problèmes. C'est vrai que ça change énormément, là je pense énormément, je regarde Emmanuel en souriant, ça change tout. Ça change énormément de savoir que notre identité est en Christ. Et on a j'ai beaucoup à progresser dans ce domaine pour être plus modéré, plus sage, plus juste, parce qu'on est, alors une expression pas très poétique, mais bien dans ses baskets, comment on dit ça bien? Parce qu'on est bien dans sa peau, c'est déjà plus joli, parce qu'on est bien, on est mieux à l'intérieur. Plus on sait qui on est en Jésus-Christ, mieux on réagira dans mille domaines. Très, très, très juste. Merci beaucoup,
Peut-être la communication aussi. La communication, je ne sais pas comment expliquer ça.
Oui. Est-ce que le fait d'être croyant peut nous aider à communiquer? Je le crois. Hein. Ah oui. Les non-croyants peuvent nous donner des leçons magnifiques. Et en tant que croyant, on peut se planter terriblement dans les relations. Ok. Mais le fait de connaître Dieu, d'être au bénéfice de toute la sagesse de l'Évangile, m'aide dans les relations. Bien sûr.
Je pense que c'est aussi une question de valeur, parfois. Nos valeurs en tant que chrétiens, c'est pas partagé par tout le monde.
Oui. Et là, je pense... Oui, je pense que c'est un des cas où il y a deux facettes. Parce que nos valeurs ne sont pas partagées par tout le monde, mais parce qu'elles sont enracinées dans des choses très très solides, elles sont un plus, nos valeurs. Mais parce qu'elles peuvent déranger, parce qu'elles ne sont pas partagées par tout le monde et qu'elles peuvent même agacer, on y reviendra, la lumière dérange, c'est bizarre, hein, mais c'est écrit dans l'Évangile. Non, pas celle-là. La vérité peut déranger, la droiture peut déranger, etc. Du coup, ça peut, c'est ce que je disais il y a 10 minutes, ça peut ajouter à nos difficultés. On peut faire partie de ceux qui dérangent parce qu'on a des valeurs très belles. Oui, Thomas ?
Une des choses qui pour moi a changé, c'est le fait que mon vrai chef, c'est pas mon chef au boulot, mais c'est Dieu. Un réflexe un peu humain, c'est de, quand le chef n'est pas là, ben, on fait les choses un peu différemment. Voilà. Mais quand ton chef c'est Dieu, bah, en fait les choses tu les fais jamais différemment puisque ton chef est tout le temps avec toi, il est tout le temps, quelque part, tu es tout le temps en train de lui rendre des comptes. Donc le fait de, voilà, d'être cohérent dans ton travail, de faire tout sous le regard de Dieu, eh ben, ça amène quand même un certain, voilà, une certaine façon de travailler qui est vraiment différente. Quoi.
Tu as tout à fait raison. Tu me fais penser à un texte qui dit de le faire pas simplement devant eux, mais en leur absence. Et je tombe sur Éphésiens 6, mais il y en a un autre. Là, Éphésiens 6, il parle au maître, dans la même ligne de ce que tu dis. Éphésiens 6, verset 9. « Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que que leur maître et le vôtre est dans les cieux. » Donc tu dis, en tant que croyant, mon vrai chef, c'est quelqu'un d'autre que mon chef visible, et ça va changer ma façon de me comporter, et c'est très vrai. Et Éphésiens 6 rajoute aussi quelque chose pour le chef humain. N'oublie pas qu'en tant que chef humain, ton chef et son chef, c'est le même. Oui, merci beaucoup. Voilà, je suis content d'avoir fait ces préliminaires, c'est très riche. On va aborder maintenant quelques questions qui étaient proposées dans la formulation du thème. J'ai regroupé quelques difficultés qui étaient repérées, à savoir surmenage, sous-emploi, chômage, précarité, relations toxiques, harcèlement, inégalité. En deux grands chapitres, tout ce qui touche à la pénibilité du travail, soit on en a trop, soit pas assez, soit pas du tout, et ce qui touche aux relations qu'on vient d'évoquer à nouveau, les relations toxiques, le harcèlement, les inégalités, les comparaisons, etc. Donc on va aborder ces quelques thèmes, et puis il y aura un temps de parole à tous pour que vous me complétiez. Je l'ai dit tout à l'heure, autant j'étais à fond dans le thème, heureux de creuser, autant dans beaucoup de paragraphes, je me suis dit, j'aurais dû, il y a 2-3 semaines, interroger des personnes qui vivent, qui ont un boulot à la chaîne, dans une entreprise, pour m'aider à réfléchir à certains sous-points. Valérie, tu levais la main.
Ce que tu cherchais tout à l'heure, c'est un peu au-dessus. C'est le verset 5 d'Éphésiens 6.
Ah, ah, ah. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement. Alors, j'en cherche encore un autre. Ah, si, non, c'est... Pardon, c'est... Non, c'est... Tu l'as trouvé. Merci, Valérie. Et cela, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font toute... qui font tout devant Dieu. Oui, merci beaucoup, beaucoup. Donc, il y a effectivement, c'est Éphésiens 6 qui nous permet de cogiter ça. Donc voilà, deux grands chapitres, et puis un temps de parole à tous pour que vous me complétiez encore. Tout ça dans l'heure. On ne va pas dépasser l'heure. Alors, Premier grand chapitre, ce qui touche à la pénibilité du travail. Je relis quand même quelques versets au tout début de notre Bible qui nous disent pourquoi c'est pénible. Alors Valérie nous a donné la réponse tout à l'heure, c'est à cause du péché. Genèse 3 le dit, et je relis quelques versets, Genèse 3, 14 à 19. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu ramperas, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de la femme, que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Je n'avais pas en tête qu'on vivrait un jour où ces paroles ont été prononcées ce matin. Le travail est pénible, en particulier parce que le péché est venu tout perturber et que depuis Genèse 3, nous savons qu'il est marqué par ce que le péché a abîmé. Premier sous-point de la pénibilité du travail, le surmenage. Le travail peut déborder. Le travail est normalement source de fatigue. Mais il est lieu d'excès. Et le surmenage peut faire que la machine ne marche plus, ou pas bien, que la machine se dérègle. Quelques symptômes. Irritabilité. Alors on peut être irrité sans être dans des périodes de surmenage, mais ça, c'est quand même quelque chose qui nous tombe dessus un peu plus quand on n'est pas bien, à cause du surmenage. Troubles du sommeil, déprime ou dépression, douleur dorsale, musculaire ou articulaire, éruption cutanée, etc. Des choses que j'ai trouvées dans quelques recherches sur les effets du surmenage et les symptômes du surmenage. Il y a des gens qui sont surmenés sans le savoir. Il y a un jour, une sœur médecin qui m'a interpellé et qui m'a dit, j'ai repéré ça, ça, ça et ça, Étienne, et il faut que je te le dise. C'était des choses factuelles. Donc il y a des critères de surmenage. Il y a des causes de surmenage, on en a évoqué beaucoup tout à l'heure. Les tensions au travail liées à la productivité, aux chiffres qu'on doit faire, et quelquefois parce que nous, on se noie dans le travail. Donc il y a beaucoup de causes, mais on va passer quelques minutes pour réfléchir aux remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire devant cette difficulté très connue et assez présente au travail du surmenage? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y.
Alors bon, je dis ça, mais en même temps, j'ai souvent été surmené dans mon travail.
Oui.
Mais en même temps... Quand à la fin de la journée, on a fait tout ce qu'on a pu, et souvent c'était déjà excessif, mais quand on a fait tout ce qu'on a pu, quand tu te mets devant Dieu et tu te dis « moi je ne peux pas faire plus », et ben tu peux être juste en paix, même si tes objectifs ne sont pas atteints, même si tu es peut-être loin de ce que tu devais faire, mais voilà, juste garder à l'esprit que... Peut-être que les hommes te demandent plus, mais tu sais au fond de toi-même que Dieu ne t'en demande pas plus. Parce que si tu t'animes à ce point-là, c'est que Dieu ne veut pas ça pour toi. Donc quand on a les consciences, tu peux être en paix devant ton vrai chef, encore une fois, en disant voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, le reste appartient à Dieu finalement.
C'est très vrai. Je dis merci à Dieu toutes les fois où je m'endors très bien, avec beaucoup de choses pas faites. Dans la mesure où j'ai fait ce que je pouvais faire. Quelquefois, j'ai demandé pardon à Dieu pour des négligences, pour du temps perdu. Quelquefois, j'ai demandé pardon à Dieu pour trop de choses acceptées. Et après, on fait mal parce qu'on a trop accepté. Et qu'on se retrouve en surmenage de notre faute. Mais c'est un excellent remède que de s'en remettre que dans la souveraineté de Dieu. La terre tourne sans nous. J'aime beaucoup me répéter ça. La terre tourne sans nous. Et c'est un grand remède que de mieux connaître Dieu et de s'en remettre en celui qui dirige tout. Oui, quoi d'autre? Alors, vous n'allez pas oser le dire tellement c'est simple. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on travaille trop?
Prendre des vacances.
Travailler moins.
Dormir.
Voilà. Donc, et voilà. Mais c'est une solution. C'est tellement simple que je ne voulais pas trop... Quoi faire quand on travaille trop? Il faut travailler moins. Alors, là, vous allez m'aider aussi, ceux qui sont dans des contextes où on ne peut pas facilement. Mais il faut au moins avoir l'objectif. Hein. Il faut viser de gérer les excès. Et ce n'est pas vrai que pour le travail, mais on parle du travail. Donc, il faut viser la modération.
Je pense que Dieu a donné le dimanche pour se reposer.
Oui, c'est mon point suivant. Qui bibliquement s'appelle le sabbat. Et c'est extrêmement important de continuer à mieux comprendre l'enseignement sur le sabbat. J'ai bénéficié, quand j'étais à l'armée, il y a 35 ans, à Montpellier, d'un cours du soir à la faculté avec dans le département du judaïsme, d'un cours fait par un juif sur le sabbat. Et c'était très très bon, ça m'a beaucoup marqué, de voir comment il présentait le sabbat comme un grand cadeau que Dieu a fait à son peuple. Et non pas comme une contrainte, comme quelque chose qu'il faut respecter, sinon Dieu va nous taper sur les doigts. Et on se souvient, je pense, que parce que le peuple n'a pas respecté les sabbats, Dieu l'a envoyé en captivité. Et parce qu'il n'a pas respecté les sabbats pendant 490 ans, on divise par 7, il était en captivité 70 ans. Hein? Donc le sabbat est quelquefois vu comme quelque chose qu'il faut faire. On n'a pas le droit de ramasser du bois, faire ceci, faire cela, le jour du sabbat. Mais c'est tellement important, tellement juste de voir le sabbat comme un cadeau que Dieu a offert son peuple. Et quel est ce cadeau? Qu'est-ce que Dieu veut offrir à l'homme avec le sabbat, en se donnant en exemple? Le Créateur a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, Exode 20. Exode 23, pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient aussi du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. J'aime bien cette traduction. Souffler. Exode 31, vous observerez le sabbat, il sera saint pour vous, celui qui le profanera sera puni de mort. Vous observerez le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toutes les générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera un signe entre vous et moi. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce jour sera consacré. Et là, c'est la réponse à la question que je pose. Quel est l'accent que les textes bibliques, j'en ai relu quelques-uns sur des centaines, quel est l'accent que les textes bibliques mettent sur le sabbat? Ce n'est pas « tu ne feras pas ».
C'est la relation de Dieu.
C'est « tu le consacreras à Dieu ». Et le gros cadeau que Dieu nous fait en ayant enseigné l'importance du sabbat, et on pourrait, on ne va pas le faire ce soir, je fais une parenthèse, en parler longtemps pour aujourd'hui, je crois vraiment que c'est très important qu'on comprenne le sabbat, nous, aujourd'hui. Et le sabbat, ce n'est pas forcément tel jour de la semaine. Et Hébreux 4 nous dit que le sabbat, c'est le repos en Dieu. Mais je crois quand même qu'il y a ce principe qui dit que Dieu veut qu'on ne soit pas des esclaves du travail. Et veut qu'on ait du temps pour lui, du temps pour notre relation avec lui, du temps pour souffler un peu, mot de ma traduction, du temps pour être bien. Et il faut comprendre à quel point c'est important de lutter contre le métro-boulot-dodo. Et si je me souviens bien, c'est une expression que ce prof avait utilisée dans les cours dont j'ai bénéficié. Dieu veut nous protéger du métro-boulot-dodo. Il veut qu'on ait le temps de s'asseoir, de prendre du recul, de réfléchir, de bien vivre. Donc c'est une réponse au surmenage que d'entendre l'enseignement biblique concernant le sabbat. Et je n'ai pas les outils et pas l'expérience pour évoquer tous les cas où c'est beaucoup plus difficile ou plus facile dans certains cas de moins travailler. Je n'ai pas tous les sous-cas. Mais je nous propose de repérer comme un principe clair et net que le travail ne doit pas, comme beaucoup d'autres choses, être dans l'excès. Et qu'il nous faut apprendre à nous arrêter, et en particulier avec tout ce grand enseignement biblique concernant le sabbat, que Dieu nous aide à voir le sabbat comme le cadeau que Dieu nous fait. Il veut que nous apprenions à nous arrêter et à nous ressourcer en lui. Et le dimanche, c'est pas tant ne pas, pour nous en général, on peut marquer cela le dimanche, c'est pas ne pas faire, mais ça doit être surtout marqué par avoir du temps pour écouter son Dieu, être avec les siens, se ressourcer, s'arrêter, penser, arrêter, sachez que je suis Dieu, etc. D'autres remèdes au surmenage ?
Moi, je dirais, pour ma part, c'est la gratitude et la reconnaissance. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose au travail, je n'enchaîne pas. Parce que voilà, chez nous, c'est un peu mitraillette, on enchaîne. Stop, on s'arrête. Et moi, je m'arrête. Et j'ai un temps de gratitude, de reconnaissance pour ce qui a été fait. Plusieurs fois dans la journée, pour reprendre mon souffle. Gratitude par rapport aux capacités que Dieu me donne, mais aussi à ce qu'il a permis qu'il soit fait. Et c'est aussi un conseil que je donne beaucoup à mes jeunes enseignantes qui sont souvent sur le surmenage, c'est prendre le temps de la gratitude et de la reconnaissance de ce qui est fait. Et pour moi, c'est un grand remède.
Très beau. Et là, alors, tu me ramènes très loin en arrière, quand j'étais enfant, dans un tout autre contexte. Un tableau merveilleux. Certains ont peut-être vu des choses qui ressemblent à ça. Un paysan qui a terminé de labourer un champ et qui s'arrête et qui regarde le champ. C'est un tableau merveilleux. Il a terminé un champ. Il y aura beaucoup de choses à faire, mais il y a une mission accomplie. On fait une pause dans la gratitude, pour reprendre ton mot, et on est reconnaissant parce que Dieu nous a permis de faire une chose, et on va passer à la suivante, mais on s'arrête et on regarde le champ labouré. J'ai vu ça. C'est beau à voir. Merci. D'autres remarques sur le surmenage ? On va passer à l'inverse. Mais s'il y a une remarque sur le surmenage ? Non. Alors l'inverse, qui nous était proposé comme réflexion aussi, le sous-emploi. Eh oui, ça existe aussi. Et j'ai rencontré, réfléchi avec des personnes qui subissaient des choses très lourdes dans ce domaine. Ça existe et ça peut être très douloureux. Dans les causes possibles, quelquefois, fin de carrière, l'employeur ne veut plus investir pour nous former. Et on se retrouve au placard. On a encore payé, on a encore toléré dans l'entreprise, mais on n'est plus, ça ne vaut plus le coup d'investir en nous. Et donc, on devine que c'est... Je ne l'ai pas vécu. On devine que c'est très blessant, c'est très humiliant, c'est très... Enfin oui, ça doit faire mal, on le devine facilement, sans l'avoir vécu de près. Donc dans les causes, il y a fin de carrière. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui peut être une cause de sous-emploi ?
Le chômage.
Alors on va y venir, c'est le point suivant, c'est l'extrême. On est tellement sous-employé qu'on n'a plus le travail. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être sous-employé, on n'a pas du boulot pour toute la journée ?
Mais comment la santé ?
Alors, on peut avoir des soucis de santé, on peut avoir des manques d'aptitude, on peut avoir un travail qui ne nous correspond pas bien, en fait. J'ai vu ça. Et on a été mal orienté. Et du coup, on patine et on est sous-employé. Parce que nos capacités ne correspondent pas bien au poste dans lequel on se retrouve. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, il y a quelquefois des causes en nous, il y en a assez souvent ailleurs. Il y a des personnes qui se sont retrouvées mises de côté par méchanceté, par jalousie, parce que les gens jouent des coudes. Alors ça, c'est pas trop non plus dans mon contexte de travail, je regarde mon collègue, on ne joue pas trop des coudes, on est content de céder. Mais il y a des contextes de travail, et là aussi, sans l'avoir vécu de près, c'est tellement facile à imaginer, à comprendre. Et j'ai fait quelques stages en entreprise quand même, pendant mes études. Ouais, jouer des coudes, c'est très présent dans les entreprises. Et ça peut aller jusqu'au point où celui qui subit des actions méchantes de la part d'autres va se retrouver sous-employé parce que le travail lui est pris. Remède. Qu'est-ce qu'on peut faire ? devant cette difficulté au travail, quand on subit l'inverse du surmenage et qu'on est sous-employé, si c'est par méchanceté, si c'est parce que les autres nous ont mis de côté, je pense qu'il est tout à fait justifié d'envisager d'aller ailleurs quand on peut. On va le revoir pour les points qui suivent. C'est souvent justifié d'envisager d'aller ailleurs. Ce n'est pas être lâche. Ce n'est pas être manqué de persévérance que de changer d'endroit si les gens ne sont trop... Alors, caustique, vous devinez que ça va revenir avec le point suivant et les relations. Est-ce qu'il y a des textes de l'Évangile qui nous diraient ça? Un petit peu... Je n'ai pas trouvé de texte qui était directement lié à ça. Mais le principe d'aller ailleurs quand on nous fait souffrir. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent qui disent que des personnages bibliques ont changé de lieu, de région parce qu'ils étaient malmenés? Alors, ce n'est pas forcément le sous-emploi, hein, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais ils étaient malmenés, ils étaient sous le coup de la méchanceté des autres. Est-ce qu'il y a des principes bibliques qui nous disent que c'est bon de ne pas prendre les coups et de rester toujours là où on prend des coups? C'est bon d'aller ailleurs quand on peut.
Paul, il est parti plusieurs fois.
Exactement. L'apôtre Paul, il a souvent fui, et les frères et sœurs l'ont aidé aussi, ils l'ont mis dans un panier quand il fallait. Parce que prendre des coups, ça peut être courageux de les supporter, mais si on peut aller ailleurs, ben c'est justifié. Hein. Dans le domaine même de l'évangélisation, là, il ne s'agit pas de prendre des coups, mais il y a un texte assez connu dans Luc 10 qui dit « Si dans une ville on ne vous reçoit pas, on dit par lui, persévérez, changez de méthode, faites des réunions de prière, allez dans une autre ville. » Luc 10. Si vous êtes dans une ville où on ne vous reçoit pas, secouez contre elle la poussière de qui est attachée à vos pieds et poursuivez votre chemin. Et je crois qu'on a un principe là qui dit qu'un chrétien n'est pas appelé à prendre des coups en supportant. Si on est dans un endroit où on est malmené, maltraité, c'est justifié d'envisager d'aller ailleurs. Extrême du sous-emploi que Valérie a évoqué il y a 2 minutes, le chômage, qui peut être un prolongement du précédent, et qui peut être particulièrement douloureux aussi. Je parlais de la sensation très blessante de celui qui est sous-employé. C'est évidemment encore plus fort chez un chômeur qui a éventuellement subi des problèmes d'incapacité, éventuellement à nouveau le rejet, la méchanceté, mais dans tous les cas, c'est dur de se retrouver en dehors de ce monde du travail. Alors, on a parlé de la pénibilité du travail, on passe toute cette heure à réfléchir à ce qui est douloureux au travail, mais en fait, c'est très dur d'être éjecté du monde du travail. Et c'est ça, le chômage. Certains sont tout contents de se soustraire au travail. Ça, c'est pas le chômage. Ça peut être la fainéantise, ça peut être la tricherie, hein, quand on se soustrait au travail. Mais là, on parle de celui qui voudrait travailler et qui n'a pas accès au travail. Et puis, qu'est-ce qui est lié comme difficulté quand on n'a pas de travail? Qu'est-ce qui peut arriver? Pardon?
L'ennui.
L'ennui, oui. Quoi d'autre de très concret? Les finances. Oui. Bon, alors, il y a toute la question touchant à la personnalité. Estelle nous a parlé de notre identité en Christ tout à l'heure, et ça va être une immense réponse ici et à chaque fois. Mais financièrement, ça peut être très dur. Hein. Et là, est-ce qu'il y a des textes bibliques qui nous disent qu'on a des réponses en tant qu'Église devant cette question des conséquences financières, matérielles que certains peuvent connaître en tant que chômeurs? Et là, mes regards sont tombés sur le service solidarité. Pardon ? Oui, j'ai fait comme ça. Mais quand même, je vous relis acte 4, qui est un repère pour notre vie d'Église et une réponse aux difficultés liées au chômage et à la précarité, qui est le mot suivant. Acte 4, 34 à 37. « Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je ne vais pas vous suggérer de tous vendre nos voitures, maisons, appartements en rentrant ce soir ou demain quand les bureaux sont ouverts. Ce texte ne dit pas ça, et très clairement à la lumière des autres textes bibliques, il n'y a aucun enseignement qui dirait que le croyant ne doit rien posséder et doit, en se tournant vers Jésus-Christ, devenir quelqu'un qui n'a plus de possession et qui doit tout remettre à la communauté. Il n'y a aucun enseignement biblique qui appuierait cela comme étant une marche normale de tout croyant dans tous les temps. Mais il y a un principe quand même. Nous sommes devant un élan de solidarité et ça, c'est enseigné. Est-ce que vous savez quel est un mot très utilisé qui veut dire solidarité, mais qu'on n'a pas toujours en tête la solidarité quand on utilise ce mot, qui parle de la beauté des relations entre nous. On parle de quoi ?
L'amour fraternel.
L'amour fraternel, de la communion. Et dans la communion, certains textes traduisent certains versets où il y a le mot koinonia par solidarité, parce que la communion dans les versets bibliques inclut des choses aussi concrètes que le partage des biens. C'est plus que se serrer la main quand on a le droit. C'est plus que se saluer à la fin du culte. La communion, c'est se serrer les coudes. Et donc, il y a un principe quand même qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament du temps de la manne et d'autres textes qui disent qu'ils partageaient et que personne n'était sans rien. Et je pense qu'on a un principe à réfléchir en tant qu'Église pour qu'on réponde à une des grandes difficultés de ceux qui sont dans le chômage, ce sous-emploi et la précarité qui est le mot suivant. Je pense qu'il faut qu'on continue, on le fait beaucoup, mais qu'il faut qu'on entende l'enseignement biblique qui nous dit comme réponse que l'on doit être solidaires les uns des autres et ne pas tolérer que l'un de nous ait faim, pour citer d'autres textes bibliques, quand l'autre aurait trop. C'est pas juste. Précarité, justement, c'est le mot suivant qui nous est proposé. Et dans les remèdes, j'ajoute à acte 4, 2 Corinthiens 8, que vous devez connaître, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, quand on partage, mais de suivre une règle d'équité. Dans la circonstance présente, votre abondance peut pourvoir à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura équité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Voilà, dans les difficultés du travail, les difficultés matérielles, que Dieu nous aide à discerner ce qui est sage, mais qui manifeste vraiment la solidarité pour qu'on puisse venir en aide à ceux qui connaîtraient ce genre de difficultés. Autre chapitre, les relations, et avec un mot fort qui nous est proposé, les relations toxiques. Matthieu 10 nous rappelle que le monde peut être un monde dur. Matthieu 10, 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. J'ai dit tout à l'heure que notre monde peut être un monde de brutes. Le vocabulaire de Luc 10, 16 parle de loups au milieu desquels nous, brebis, sommes envoyés. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme des colombes. Gardez-vous des hommes. C'est une phrase terrible. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, des rois, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc Matthieu 10 ne parle pas de... c'est Matthieu, je me trompe. Oui, c'est ça, Matthieu 10. Ne parle pas de relations toxiques. Je pense pas qu'il y ait le mot dans la Bible. Je regarde mon collègue, je crois pas. Hein. Mais nous, on en parle aujourd'hui. Par contre, la Bible parle beaucoup de relations de méchanceté, de jalousie. L'apôtre Paul a énormément subi la jalousie de ceux qui l'ont maltraité. Et il devait aller de ville en ville, en grande partie parce que la jalousie faisait que les personnes s'acharnaient contre lui. Qu'est-ce que c'est qu'une personne toxique ? Ici, on parle de personnes qui ne sont pas simplement méchantes, désagréables, avec qui on vit des choses qui nous font de la peine. On parle de personnes qui peuvent être destructrices, de relations qui peuvent nous abîmer profondément. Ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que les personnes elles-mêmes peuvent être particulièrement marquées par la méchanceté, peuvent être malades. Les personnes elles-mêmes peuvent être marquées par ce qui les conduit à être dans ce genre de relation toxique. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le contexte du travail peut être, dans certains cas, cause d'énormes pressions de concurrence, de compétitivité, de jalousie, qui fait que les personnes en arrivent à faire des choses destructrices. Ce n'est pas simplement la compétitivité des enfants de la cour d'école, mais c'est la compétitivité qui va mettre KO le collègue et qui va le mettre par terre. Quels sont les remèdes ? Alors là, je crois que Luc 10, que j'ai cité tout à l'heure, est très justifié. Si on vous fait du mal, et j'ajoute ce qui n'est pas dans le texte biblique, à ce point-là, partez. On a un texte biblique qui nous dit qu'on ne doit pas se croire obligé de tenir bon, de demander aux frères et sœurs de nous soutenir, de crier à Dieu pour qu'il renouvelle nos forces intérieures. Tout ça, on peut. Mais bibliquement, il y a plusieurs textes qui nous disent qu'il est juste de ne pas subir, quand on peut aller ailleurs, ce qui est insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi devant les choses, les injustices? Je vais glisser vers le point suivant tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut faire devant les injustices, les relations fausses dont on s'est quelquefois privé au nom de la douceur, de la patience, de la compassion? Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? On peut partir, mais avant ça. Pardon? On peut mettre des limites, on peut dénoncer. Jésus et Paul ont dénoncé des injustices. Paul a subi des choses terribles, mais à plusieurs reprises, il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Donc il ne l'a pas fait de façon violente, mais je pense que dans certains cas, on n'a pas assez osé dire ce qui est vraiment faux. Donc il faut oser dénoncer, il faut oser clarifier, comment tu as dit, mettre un cadre, mettre des limites. Et là, il y a des méthodes qui peuvent nous aider, que des hommes ont travaillé, pour la médiation, pour mettre quelqu'un devant des faits et passer du ressenti au fait, mais bien entendre le ressenti, etc. Et puis en tant que croyant, comme on l'a dit depuis le début de l'heure, on va demander à Dieu de nous aider, hein, de renouveler notre capacité à parler, écouter, analyser, mettre les points sur les i en tant que croyant. Je regarde Hatch qui en parlait tout à l'heure. En tant que croyant, on va pouvoir faire des choses quand même, qu'on n'aurait pas pu autant faire sans l'aide de l'Esprit en nous. Quand on parle de harcèlement... Hein, oui, vas-y.
Peut-être aussi une chose qui peut aider, c'est que souvent, quand on est en relation avec une personne toxique, il y a l'aspect professionnel, mais il y a l'aspect relationnel aussi. Et du coup, c'est l'aspect relationnel qui nous affecte et qui nous fait du mal. Donc, quand on ne peut pas partir... il faut se concentrer juste sur l'aspect professionnel et se dire si la personne attaque, on répond parce qu'il faut faire de manière professionnelle. Et puis le reste, il faut essayer de se protéger du coup et d'avoir conscience que la partie émotionnelle, on essaie de faire une séparation. C'est une façon de partir, de se protéger, de se concentrer que sur l'aspect professionnel et le reste de dire je me protège, je prends du recul, au lieu d'être proche de cette personne. S'en éloigner le plus possible et d'être en relation uniquement que pour le professionnel, on est obligé.
Très très bien, merci beaucoup pour ce témoignage et cette réflexion. On peut partir sans partir physiquement, mais on peut partir dans certains domaines. Et on peut faire la part des choses entre le professionnel, le relationnel, l'affectif. C'est-à-dire là, je me retire et je me protège. Merci beaucoup.
Thomas. Juste un témoignage encore une fois personnel. Dans mon équipe, j'ai eu deux fois des personnes toxiques. Et une fois, tu as dit, des fois on ne peut pas crier à Dieu, mais moi en allant au boulot dans ma voiture tout seul, j'ai hurlé au Seigneur de me délivrer de cette personne. Et le jour même, mon supérieur hiérarchique m'a appelé pour me dire comment ça va, je lui ai fait part de ça, et je m'en occupe. Et la situation s'est un peu calmée. Et ensuite, c'est cette personne qui est partie plus tard. Donc là aussi, de temps en temps, et c'est un cadeau que le Seigneur m'a fait, mais j'ai dû hurler au Seigneur. Et il a répondu.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Thomas. Oui, alors dans les solutions, on peut le répéter, hein, il y a cet appui, ces refuges qu'on a évoqués plusieurs fois. En tant que croyant, on va subir des difficultés, quelquefois des plus fortes, mais on a un appui toujours, toujours à côté de nous. Et même dans sa voiture, on peut crier, on peut hurler, pour citer Thomas. Sur son vélo aussi, ça marche. Dieu a les mêmes oreilles. On lira un texte très fort tout à l'heure qui nous dit que Dieu nous écoute. Le harcèlement, qu'est-ce qu'on peut dire du harcèlement en plus des à côté des personnes toxiques? Ce n'est pas forcément les mêmes. Mais ici, on ne parle pas seulement de personnes qui sont problématiques, qui sont éventuellement toxiques, mais on parle de personnes qui ne nous laissent pas partir, pour rebondir sur le témoignage de Thomas, qui nous poursuivent. Et là encore, il y a des exemples bibliques de personnes qui ont poursuivi d'autres. Saül a poursuivi David. Et pour le coup, c'était le contexte du travail, de la royauté. Il voyait un rival très dangereux en David, et il y a plusieurs textes qui parlent de Saül qui a poursuivi David. Harcèlement, on pense souvent aux relations et aux relations sexuelles. Il y a évidemment le texte de Joseph. Elle l'a harcelé, la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? Il est parti. On retrouve la fuite. Il est parti. Les ennemis de Daniel, on a plusieurs cas différents de type harcèlement, où ils ne le laissent pas tranquille. Ils le poursuivent. Ils viennent chercher la faille. Ils viennent l'embêter. Les opposants de Jésus l'épiaient et voulaient chercher la faille. Donc tout ça, ça existe, y compris dans des exemples bibliques. Les causes, très souvent la jalousie. Très souvent. La faiblesse du cœur humain, et pour les tentations sexuelles, c'est beaucoup ça. Éventuellement, les maladies psychiques ou autres. Dans les remèdes, la fuite, à nouveau. La protection et s'en remettre à Dieu, dans les trois tirets que j'avais mis ici. Et puis le soutien, alors ouais, on peut ajouter, le soutien des amis, des frères et sœurs, c'est le genre de choses, et là on est en plein dedans dans notre société, c'est le genre de choses pour lesquelles il est tellement bon de ne pas les porter tout seul. Mais si j'ai bien compris, c'est une des choses très difficiles que d'aider des personnes qui subissent des harcèlements à en parler à d'autres. Tendons la main à ceux qui ont peut-être besoin de dire quelque chose. Dernier point, inégalité et injustice. Elles ont été un peu évoquées, mais quand même, on est dans un monde où il y a beaucoup d'injustice, d'inégalité, d'oppression. Je relis un texte d'Exode qui est terrible, du temps de l'esclavage, Exode 5, 9. Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus... Oh là là, je n'ai pas mis le bon texte. Tant pis. Alors, est-ce que je vais le retrouver ici? Ah mince. Il était question de les accabler de travail. Bon, il n'y a qu'une expression qui est juste. Mais vous vous souvenez du contexte. Au moment où Moïse a plaidé pour qu'il y ait une libération, ils en ont remis une couche, ils les ont accablés encore plus. Donc l'injustice, l'oppression, la domination, ça vient d'où tout ça? Pardon?
Le péché.
Le péché, oui. Et comme sous-point, le pouvoir peut griser, l'avidité peut énormément... faire dégringoler un groupe, une société, une personne. Le pouvoir et l'avidité peuvent conduire à la domination. Dans les objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit pouvoir dénoncer les injustices, rester maître de nous-mêmes en aimant ce qu'on dénonce. On connaît bien Matthieu 5 qui dit « Aimez vos ennemis », mais il n'est pas dit « Ne dénoncez pas vos ennemis ». Vous êtes d'accord? Il est dit « Aimez vos ennemis », il n'est pas dit « Ne dénoncez pas ». Et je pense que c'est très important qu'on enseigne qu'il est juste de repousser les injustices, même si on doit aimer nos ennemis. faut pas confondre les deux. Et là, je vous ai annoncé un texte qui dit que Dieu voit tout, une grande consolation. Et c'est Jacques 5 qui dénonce les riches et qui console les pauvres. À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie ! Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Qui est-ce qui crie là ? Ce n'est pas Thomas au volant de sa voiture. C'est les salaires non versés. Vous m'avez déjà entendu évoquer ce texte. Je trouve ça tellement fort pour nous dire que Dieu voit tout, connaît tout, comprend tout, et que ce qui est injuste et très caché saute aux yeux de Dieu, ou dans le cas précis, saute aux oreilles de Dieu. Dans tous les cas, on est avec des images. En tout cas, rien n'échappe à Dieu. C'est quand même une énorme consolation que Jacques laisse à ceux qui sont sous le coup de la justice. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Beaucoup d'autres textes nous disent que Dieu fera justice. Ça peut être très long, et ça ne sera pas forcément sur cette terre. Mais Dieu fera justice. Et le livre de l'Apocalypse nous donne aussi comme consolation que justice sera faite. Remède pour nous quand on subit tout ça. Qu'est-ce que vous rediriez ? On a dit les remèdes. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on subit l'injustice ? Quelqu'un ? J'ai cru. T'as rien dit. Pardon ? On peut prier, on s'en remet à Dieu qui sait tout, qui voit tout. On relit Jacques 5. Quoi d'autre ? On dénonce. Pour soi et pour les autres. On dénonce, on l'appelle. On est des faiseurs de paix. On doit être des faiseurs de justice. Michée 5, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes et que tu pratiques la justice, la loyauté, le bien. On doit être des pratiquants de la justice. On doit être de ceux qui se retroussent les manches pour contribuer autant qu'on peut à plus de justice. Parole à tous, 2-3 minutes. Désolé, je vous dis qu'on faisait qu'une heure. On arrive à 1h02. Est-ce qu'il y a des grandes difficultés du travail qu'on n'a peut-être pas évoquées avec les sous-points qui m'ont été proposés et ceux que j'ai essayé de creuser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête qu'on peut évoquer encore avant de terminer comme étant un lieu de difficulté, un type de difficulté qui fait partie de ce que l'on peut croiser au travail? Oui.
Moi, je peux évoquer peut-être participer. Un chrétien, s'il n'a pas de maîtrise, il ne sait pas que le chef de son patron, c'est Dieu. Mm-hmm. Et son chef, c'est Dieu. Mm-hmm. Alors, ton patron peut-être avoir détourné de l'argent. Mm-hmm. Alors, toi, chrétien, tu dis que c'est ta fonction. Mm-hmm. Alors, c'est toi qui as appelé à couvrir ces vols-là. Mm-hmm. Alors, ton patron, comme tu as peur du patron plus que Dieu, mm-hmm. il peut te dire non. Tu vois, ça. Alors, toi, tu passes des écritures comme ça, par exemple, à la banque, là où il y a un mouvement. Alors, si tu ne crains pas Dieu, tu vas tomber sur ces péchés-là.
Alors, tu me fais penser à un chapitre que j'ai assez souvent croisé et qu'on n'a pas vraiment évoqué ce soir. Les personnes qui sont dans des situations où on leur demande de tricher. Surtout dans le monde de la comptabilité, mais pas seulement. Et j'ai connu un chrétien qui a réorienté sa profession parce qu'il n'en pouvait plus, de devoir, enfin, il ne le faisait pas, mais il était tout le temps sous la pression de patrons qui voulaient qu'il dise les faux chiffres. Donc ça peut être une grande difficulté au travail. Notre honnêteté peut être fortement malmenée dans un monde où la tricherie est vue comme une astuce. Très juste. D'autres points précis que vous voulez évoquer ?
Dans le domaine du travail, mais pas seulement professionnel, il y a quand même très souvent aussi la question de pouvoir et d'autorité.
Bien sûr.
Perturber les relations.
Alors, on a un peu parlé des relations. On aurait pu plus parler de ce que Valérie a dit au début de l'heure, la hiérarchie, toute la question de la soumission aux autorités. Et en même temps, ce que Thomas a dit comme remède, le vrai chef au-dessus de nous tous, c'est le même. Donc la hiérarchie vue à la lumière de la souveraineté de Dieu, c'est pas du tout pareil que s'il y a des hommes qui dominent les autres en oubliant que Dieu est au-dessus d'eux. Quelques mots de conclusion, trois tirets. Le monde peut être dur. Je le redis dans ma conclusion. Il y a beaucoup de causes, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Il y a beaucoup de causes de difficultés. On en a évoqué quelques dizaines, mais il y en a plein. Et d'épreuves dans la vie en général et au travail en particulier. Jalousie, soif de pouvoir, les questions d'autorité qui vont avec le pouvoir. Et le péché, tout simplement, comme on l'a dit tout au début, qui a profondément tout abîmé. Donc il y a beaucoup de causes de difficultés. Deuxième remarque, la foi peut accentuer certaines difficultés et même en faire naître. La lumière peut déranger les ténèbres. C'est vrai ça? Oui, Jean 1. La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Jean 3 nous dit, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière, parce que la lumière, ça dérange. Et donc, ça peut faire partie de notre expérience aussi, d'être à notre niveau, de ceux qui dérangent. La droiture peut agacer, ton dernier exemple, est en plein dedans. Un comptable chrétien peut profondément agacer un bureau qui est hélas pas dans la droiture. Et il va se retrouver en difficulté. Mais pour terminer avec reconnaissance, le croyant a un refuge et des appuis merveilleux en son Dieu. Notre Dieu est toujours prêt à écouter. On a médité le psaume 116 il n'y a pas très longtemps. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Et ça change tout, comme on l'a dit dès le début. Le chrétien est aimé, se sait aimé, et ça change sa perception de sa propre identité. Il est un être aimé. Le chrétien est accompagné. Hein, on n'est pas simplement avec quelqu'un qui nous écoute, on a un grand besoin d'écoute. On n'est pas simplement avec quelqu'un qui nous aime, on est avec quelqu'un qui nous tient la main et qui va au travail avec nous, si on accepte l'image. Et puis, quatrième remarque positive, le chrétien est au bénéfice de la transformation intérieure qui peut l'aider à, et là la liste est sans fin, prendre du recul, sortir la tête du guidon, sortir du métro-boulot-dodo, le fameux sabbat qu'on a évoqué tout à l'heure, et dénoncer sans haïr. Donc il est au bénéfice de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui peut vraiment l'aider à surmonter les difficultés au travail. Psaume, deux versets en terminant, un pour dire merci à Dieu pour le travail et un pour lui demander de nous aider. Psaume 128, ça c'est la gratitude dont Emmanuel nous parlait il y a quelques minutes. Heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, il jouit alors du travail de ses mains. Psaume 128. On a parlé de la pénibilité et des difficultés au travail. J'ai pensé terminer avec un psaume qui nous dit qu'on peut jouir du travail, qu'on peut être heureux dans son travail et par la grâce de Dieu. C'est une expérience très, très, très fréquente sur terre. Et puis un dernier psaume qui rappelle qu'on a besoin de Dieu. Dernier verset simplement. Psaume 18, versets 2 et 3. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, tu es mon Dieu où je me réfugie, tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Bon courage au travail. Je vais encore prier avec vous. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es celui que nous pouvons toujours compter, sur qui nous pouvons toujours compter. Celui à qui nous pouvons toujours nous adresser. Tu vois ce petit tour d'horizon de difficultés quelquefois très compliquées, très profondes, multiples sur le lieu du travail. Et nous te demandons d'aider ceux des nôtres qui vivent cela dans des entreprises ou des sociétés où ils sont malmenés. Nous te remercions pour tous ceux qui vivent des choses agréables dans des situations favorables au travail. Et nous te demandons en tant qu'Église de discerner comment nous pouvons être vraiment un soutien les uns pour les autres. Et que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, Nous te redisons ensemble ce soir que nous voulons apprendre à toujours mieux te connaître en tant que rocher inébranlable. En tant que refuge, nous pouvons toujours courir. Et nous te bénissons pour tous ces textes qui nous disent que tu vois tout, connais tout, comprends tout, et que jamais nous ne sommes pas compris par toi, jamais nous sommes oubliés par celui qui est au-dessus de tout. Alors c'est en toi que nous plaçons toute notre confiance. Amen. Bonne fin de soirée, bonne continuation au travail pour les uns et les autres, et que Dieu nous aide en tant qu'Église à poursuivre toutes ces réflexions concernant notre vie quotidienne, entre autres au travail.